commence l'émission. Music and Lore. Avec Rémo Tatin. Musique Elnol n'est pas seulement une émission de radio, c'est aussi une association qui organise des manifestations, concerts, one-man shows, théâtre, pour vous faire découvrir des artistes de la région, mais aussi de toute la France et de l'Europe. Nous avons la chance d'avoir notre parrain, qui est Simon Fage, depuis la création de l'association. Bienvenue dans votre émission.
Chers auditeurs, votre mission, si vous l'acceptez de l'entreprendre, sera d'écouter cette émission et de vous divertir. Si vous veniez à être pris en train de nous écouter, nous serions dans l'obligation de vous remercier chaudement. Cette bande ne s'autodétruira pas dans les 30 secondes. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Above us only sky, 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 sky. Imagine-toi tous ces gens qui vivraient au présent. Si on brisait les frontières, ce n'est pas si dur à faire.
Les auditeurs, on est toujours au Festival d'Avignon 2025, on est rue Carnot, au Théâtre Carnot et l'autre Carnot, et je suis en présence de Christophe Pasclot. Comment tu vas ?
Ça va très bien, et toi ?
Mais ça va, je sors de ton spectacle, je suis réjoui, je suis bien.
Ah super, content que ça t'ait plu alors.
Ben oui, impeccable, ça m'a rappelé chez moi. Il n'y avait qu'un mot que j'attendais et que tu as fini par dire, c'est « je gère ».
T'inquiète, je gère. Eh oui, on a tous les mêmes. Hein.
Moi j'ai plutôt « t'inquiète, je gère ». Comment s'appelle ton spectacle ?
Alors, le spectacle s'appelle Hashtag Daron.
Et pourquoi ?
Eh ben parce qu'aujourd'hui, le papa, on l'appelle plus le papa, on l'appelle le daron. Voire même, tu vois, moi, des fois, les miens, mes ados, carrément, des fois, c'est trop long, daron. Donc, ils m'appellent le D. Je te jure, le D. Oh là là. Voilà, voilà où on en est réduit.
Moi, 15 ans, il a le mien, mon fils. Il fait donc partie de cette génération qu'on appelle la génération Z. T'inquiète, je gère. Non, c'est des trucs de génération, ça. Si je sortais de l'école avec une trace de feutre là sur la joue, à ma mère c'était plus simple, elle faisait easy. Et voilà, j'étais propre. Oui, il dormira à l'école, de toute façon, pour ce qu'ils y apprennent à l'école, j'étais bien. Papa, réviser, c'est douter de ses capacités. Tu veux choper ton bac ? On voit Baudelaire, 8-12-12, ils veulent tous devenir influenceurs. Oh yeah, oh yeah ! Ici Voltaire qui vous parle, mes petits abonnés. Vous connaissez Pronote ?
On connaît. Ouais.
Tu veux plus rien cacher à tes parents ?
Alors que moi, à mon époque...
C'est moi qui allais récupérer le courrier à la boîte aux lettres, des fois qui tombe entre de mauvaises mains. Je sais plus comment lui parler, moi, mon fils. Je suis même en train de tester l'éducation positive. Parce que toi et moi, on est une équipe et ça, c'est positif. J'ai fait les techniques de la CNV, la communication non violente. J'ai pas accroché ça. Quand mon père est rentré du boulot et qu'il me disait « range ta chambre », il n'a pas besoin de rajouter « s'il te plaît ». Alors lui, il m'a regardé, détendu, claquette de chaussettes. Ah ! Attendez !
Tu n'es pas ton premier Avignon.
Non, c'est mon quatrième cette année. C'est le deuxième avec ce spectacle-là. J'avais fait 2021 et 2022 avec le précédent spectacle qui s'appelait Mal Attentionné et que j'ai joué ici à l'autre Carnot. Et depuis 2023, donc j'ai fait 2023 et maintenant 2025, j'ai sauté 2024 pour hashtag Daron ici au Carnot.
Et du coup, j'allais dire, c'est une manie d'être assis sur tes affiches.
D'être assis ?
Mais
je suis
non. Assis.
Ouais, parce que je suis fatigué en fait, c'est pour ça. C'est vrai que j'étais assis sur la première affiche.
Bah oui, c'est pour ça que je suis.
Sur le fauteuil, et là, celui-là, je suis assis aussi. Ouais, non. Fatigué.
On a compris que le daron, ça parle de ton gamin. Enfin, ouais. Des gamins en général, même. Hein.
Oui, bien plus que de mon fils. Alors oui, je prends le prétexte en fait de parler de mon fils qui a 16 ans dans le spectacle, mais surtout, je compare les deux générations. Leur génération, celle de mon fils, la génération Z et la mienne de génération. Voilà. Donc forcément, avec tout ce qui a changé entre-temps, notamment le langage qui n'est plus le même, les réseaux sociaux qui sont venus accélérer tout ça. Et puis on parle de plein de sujets comme l'éducation, la famille, l'école, enfin tout ce qui a bougé. Et comment c'était quand moi j'étais ado et comment c'est aujourd'hui l'adolescence de mon fils.
Comment tu as appelé la gifle ?
La MMDTG, la technique de la MMDTG.
Alors tu vois, nous quand on était gamins, on appelait ça aide pédagogique.
Et oui, la MMDTG, parce que dans le spectacle, tu fais référence à ça. Je parle de toutes les techniques d'éducation positive, de la PNL, la CNV, la communication non violente, les Montessori, etc. Et moi, j'ai dit que j'ai été élevé à la MMDTG. Ma main dans ta gueule, voilà, ça marchait bien ça.
Et nous on était en PLS après.
On était en PLS, exactement. On a eu la même éducation, je vois, ça va, ok.
Ou la pantoufle aussi.
La pantoufle, ça marche très très bien la pantoufle, elle volait à travers la maison. Ça marchait, hein.
Mais oui, ça marchait. Fonctionnait. Puis ils n'avaient pas de faire 1, 2, 3, ils n'avaient pas besoin. Hein.
Non, ça tombait.
Maintenant, ils font 1, 2, 3, mais ça continue
pas. Mais ça continue pas, ouais. Moi j'arrivais jamais jusqu'à 3, hein. Quand ils disaient 1, c'était parti. Hein.
Tu nous expliques un peu tous ces trucs générationnels, mais tu nous expliques pas que l'éducation. Tu nous expliques aussi le modernisme qui a évolué.
Oui, c'est ça, c'est tout ce qui suit. En fait, c'est plus le prétexte à venir à parler de tout ça. Comme je t'ai dit, une fois de plus, c'est des choses qui, moi, me préoccupent en tant que papa. C'est-à-dire que l'éducation, l'école, on parle d'éducation positive, tu as compris qu'effectivement, moi, c'était pas ça le cas. Mais même l'école a beaucoup changé, par exemple, sur l'éducation, sur la façon dont on éduque nos gamins à l'école, en tout cas. J'en parle dans le spectacle. Voilà, je dis qu'aujourd'hui on note avec des couleurs pour pas les vexer, pour pas les offusquer. Voilà, c'était pas le cas pour nous.
Mais il fut une époque, je sais pas si tu te rappelles, c'était même plus des chiffres, c'était des A, B, C, D, E, F.
Ah oui, il y a une époque, il y a eu ça. Ouais, ouais.
Moi, je comprenais rien non plus.
Ouais, on comprenait rien non plus. Enfin, on comprend plus rien dans tous les cas. Voilà.
Alors moi, il y a une chose qui est grave quand même, c'est que moi, qui n'ai pas été longtemps à l'école, j'ai arrêté en CM2. Je fais beaucoup de fautes.
Ouais.
J'ai surtout appris à lire, à compter à l'armée, tu vois.
Ouais, ok.
Donc, et j'arrive à voir les fautes des profs, faut dire y aller quand même.
Oh putain.
Ouais, alors que j'en fais plus que normalement.
Tu sais que c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, oui, parce que ces jeunes de génération Z, ou en tout cas celle d'avant, aujourd'hui, travaillent, sont profs. Et ça peut poser des problèmes aussi.
Surtout.
Ça fait peur aussi, ouais, carrément. Carrément. Ça fait poser question en tout cas.
Alors moi j'aimerais bien que tu nous dises d'où tu viens.
Alors moi je viens de Brignoles dans le Var, en fait j'habite à Brignoles dans le Var depuis 20 ans maintenant. Je suis originaire de Alès dans le Gard, je suis né à Alès.
D'accord.
Et juste à côté, pas très loin d'Avignon. Et voilà, maintenant ça fait 20 ans que je vis dans le Var.
Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit j'ai envie de faire de la scène? C'est tout gamin déjà ou...
En fait ouais, j'ai toujours eu envie de faire ça. Depuis tout petit, je me suis dit j'aimais bien faire marrer les autres, etc. Et puis, mais ça, j'étais quand même quelqu'un de très timide, donc je n'osais pas aller plus loin que ça. Et puis je ne voyais pas comment c'était possible. Moi, tu sais, quand j'étais gamin, les seuls humoristes que je voyais, mes parents ne sortaient pas en théâtre, en café-théâtre, avec ces salles de spectacle. Moi, les seuls humoristes que je voyais, c'était à la télé. C'était Patrick Sébastien, c'était Michel Leb, c'était, tu vois, c'est... et puis après les inconnus, les nuls.
Ouais, mais j'ai connu la classe et le petit théâtre de Bouvard.
Exactement, la classe, Fabrice, enfin, tous ces humoristes qui passaient là, Bigard au début, Palmade, voilà, bon, voilà.
C'est, aussi.
Je veux dire, sans juger aujourd'hui ce qu'ils sont là, mais c'était à l'époque, c'était ça que je voyais. Et moi, j'avais envie de faire ça, mais je voyais pas comment. C'était inatteignable pour moi. Et puis, bon, voilà, j'ai gardé ça dans un coin de la tête jusqu'au jour où, à une trentaine d'années, je me suis dit, mais enfin. Je peux pas finir ma vie sans avoir essayé, quoi. Et au moins prendre des cours de théâtre, j'avais jamais pris des cours de théâtre. Donc j'ai pris mes premiers cours de théâtre à 33 ou 34 ans, un truc comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire un sketch, un deuxième sketch. Et puis après, en travaillant, ben, c'est devenu un spectacle. Et puis maintenant, le deuxième et troisième en préparation.
Alors, comment ça se passe? Tu t'autoprod de tout le temps ou...
Ouais, je suis en autoprod, ouais, je me débrouille par moi-même, voilà. Alors, c'est pas toujours le plus simple, mais
il voilà, y a personne pour te niquer.
Ben, ça donne de la liberté, quoi. Ça donne de la liberté, ouais, effectivement, c'est un peu ça l'idée, ouais. Ouais.
Alors, t'étais déjà en couple quand tu t'es mis à refaire de la scène?
Oui.
Et
oui,
comment
oui.
Ta femme réagit, du coup?
Ben, au début, c'était pas simple parce que c'était un milieu vraiment qu'elle connaissait pas, moi non plus d'ailleurs.
Oui,
on a découvert ça.
Tard quand même.
Et puis j'arrivais sur le tard, donc au début c'était un peu, pas problématique, mais c'était vraiment bizarre ça. Et puis tu sais, moi à l'époque, je faisais beaucoup de rugby. Ça, c'était mon j'ai toujours grandi avec le rugby, tout ça, et c'était un peu ma scène à moi en fait, parce que le rugby, j'étais pas très très bon, hein, mais par contre, j'étais bon pour faire le con, quoi, tu vois. Et donc le mec à l'arrière du bus qui fait le couillon, c'était moi. Hein, voilà. Donc en fait. Ça, c'était ma scène, c'était ma thérapie. Et en fait, le jour où j'ai dit à ma femme, je vais faire du théâtre, elle m'a dit, écoute, t'es gentil, mais tu fais déjà du rugby, machin, tu fais ça. C'est... J'ai dit, non, t'as pas compris, je vais arrêter le rugby. Et là, elle s'est dit, ah, ça doit être important alors, parce que s'il arrête le rugby, c'est que ça doit être important. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté le rugby, je me suis mis au théâtre et j'ai commencé à prendre mes premiers cours et c'est parti, comme ça.
Et après, donc, du coup, tu démarques comment? Tu fais quoi comme scène, des petites scènes? Parce qu'à Arles, il n'y avait pas grand-chose.
À l'Est. Non, j'étais à ce moment-là, j'étais déjà dans le Var. En fait, j'ai pris mes premiers cours à Saint-Maximin à Sainte-Baume, un petit café-théâtre qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui.
Depuis que tu as joué.
Non, c'est pas ma faute. Non, Covid étant passé par là, ça n'a pas arrangé les choses.
Mais
c'était avant Covid, effectivement, les premiers cours de théâtre. Le théâtre de la Grenouille qui se marre d'ailleurs. C'était très sympa. Et j'ai commencé à faire des premières parties d'artistes qui venaient jouer le week-end. Moi, j'étais là avec mes petits sketchs. Voilà, et puis, j'ai commencé à faire les premières parties, une, deux, trois. Et puis après, voilà, c'est parti comme ça jusqu'au jour où on assemble tout pour faire un théâtre. Quoi. Un spectacle complet, pardon.
Et ce spectacle, du coup, il parlait de quoi, le premier?
Alors, le premier, mal, comme le mal attentionné, où je me présente comme en fait un gros macho, et en fait, voilà, et rapidement, on apprend que le macho, il s'est fait larguer, hein, voilà. Et tout le long du spectacle, j'essaie de la reconquérir, j'essaie de trouver comment la reconquérir, la récupérer, et voilà. Donc, il y a plein de personnages, par contre, qui interviennent, voilà, qui expliquent comment j'étais. Mais justement, on parle du rugby, il y a un coach de rugby qui est là et qui en fait, voilà, on découvre le cliché du rugby. Ça c'était important, c'est mon premier sketch, c'est le premier sketch que j'ai écrit, et donc c'était important qu'il se retrouve dans ce spectacle là et puis voilà, jusqu'à la fin, la déclaration d'amour pour la récupérer.
Alors comment tu dis je passe du seul en scène au stand-up, parce que là c'est plus du stand-up maintenant que tu fais?
Oui, c'est vrai que c'est un peu plus stand-up, bien que moi j'aime plutôt me qualifier comme one man show. Le stand-up pour moi c'est encore une discipline à part, c'est-à-dire comme peut faire Romain Fraissinet, comme peut faire Kairon, tu vois, tous ces mecs-là qui, vraiment, pour moi, ça, c'est du stand-up. Et c'est une discipline qui vraiment, voilà, je trouve à part. Et moi, très honnêtement, je ne sais pas le faire. C'est un rythme très particulier, tu vois. Moi, je suis vraiment dans, voilà, dans plus d'énergie. Sur scène, j'incarne des personnages aussi parfois. Il y en a.
Ah là, il y en avait.
Il y a des persos, tu vois, il y a des personnages et j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, pour moi, je suis vraiment dans un one-man show. Voilà.
Je disais ça parce que moi, au départ, j'avais plus l'impression que c'était un stand-up avec justement des personnages qui arrivaient, tu vois.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sketch-up, c'est-à-dire c'est des sketchs, mais avec, enfin du stand-up, mais avec des sketchs, quoi, avec du perso. Ouais, c'est un peu un mélange de tout ça, ouais.
Mais tu le fais bien. Hein.
Ben merci.
Bah, la preuve, tu vois le public aimer.
Ouais.
Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'était vraiment interactif, donc tu as vraiment interagi avec le public, tu vas faire un peu d'impro.
Oui, c'était chouette. Aujourd'hui, il y avait une salle qui était alors
deux profs,
oui, c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le Festival d'Avignon, c'est comme ça. Aujourd'hui, elle était moins remplie que les autres jours. Tu vois, hier avant-hier, on a enchaîné les complets. Aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, mais c'est normal. C'est la dernière semaine, c'est comme ça. Mais par contre, le public était vraiment chouette. Il m'a vraiment rendu ça. T'as vu, ils étaient en pleine discussion. Il y avait même un débat à un moment donné. Enfin, ils étaient en train de parler. Ils avaient même plus besoin de moi à un moment.
On se dit, mais ce gars-là, il se fait chier. Un sketch, dans la salle, quoi.
Mais c'est génial, ça veut dire qu'ils sont vraiment avec moi, ils sont détendus, ils sont bien. Sinon, s'ils n'ont pas envie de parler, tu vois, c'est qu'ils se font chier, ils vont pas prendre la parole. Donc là, c'est que vraiment, ils étaient vraiment avec moi.
Ah mais je t'avais prévenu en rentrant. Hein. J'ai dit, si vous êtes pas dedans, je vous casse les genoux.
C'est pour ça, alors, d'accord, ok. C'est pour ça qu'ils ont ri, alors.
C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde à acheter le billet, mais tu n'as pas remarqué, il y avait un chapeau à la sortie.
Il y avait un chapeau. Il faut que j'aille le récupérer, le chapeau, alors. Ah, c'était pour toi peut-être le chapeau, c'est toi qui l'as récupéré.
C'est pour le régisseur. Je sais pas, il se plaint toujours qu'il m'a le payé.
C'est vrai, j'arrête pas de se plaindre s'il y a un régisseur. Il est génial. D'ailleurs, c'est l'occasion, tu fais bien d'en parler, c'est l'occasion de remercier Victor, mon régisseur, qui est vraiment un super mec avec qui je prends vraiment plaisir à travailler.
Il faut remercier les régisseurs, mais nous, on doit remercier les artistes aussi, parce que s'il n'y avait pas les artistes et les patrons de théâtre, on ne travaillerait pas non plus.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est une alchimie, il faut que... voilà. Mais tu sais, nous, on est devant de la scène, donc voilà, on prend les éloges, etc. Mais il faut le dire, hein, sans les régisseurs, sans les patrons de théâtre, sans les équipes, ben, on ne fait rien du tout. Nous, hein, donc voilà, c'est important de le dire.
Ouais, mais enfin, la différence, c'est que nous, en tant qu'équipe, on a choisi d'être dans l'ombre.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, d'accord, mais bon, c'est pas une raison pour les autres, pour vous oublier, quoi.
Ouais, mais enfin, si on nous oublie, c'est pas grave, on n'est pas...
Ouais, je sais que c'est pas forcément ce que vous recherchez, mais voilà. Ouais. C'est bien de... Moi, tu vois, c'est... mon spectacle est très écrit jusqu'au remerciement. si tu prends ma conduite, si tu prends mon texte, il est écrit, je remercie mon régisseur, je remercie le théâtre Carnot, etc. C'est écrit. C'est écrit parce que c'est une façon pour moi de dire non, mais c'est normal, ça fait partie du texte, ça fait partie de ce que je dois dire. Tu vois,
c'est quand même dommage que c'est écrit, parce que si tu dis à chaque fois Victor et Carnot quand t'es ailleurs...
Quand je suis ailleurs, quand je suis à La Rochelle...
Ils doivent faire la gueule, les autres théâtres, quand même.
Non, j'adapte.
Là, Stéphane, il va recevoir des courriers, tu vois.
C'est ça. Hé, hey, qui c'est ce Carnot, là? Qui c'est ce Victor?
Le prochain, il est déjà en route ou pas?
Le prochain est en réflexion. Voilà, est en réflexion. J'ai des pistes, j'ai écrit beaucoup de choses, mais des idées en fait qu'à droite à gauche. Je sais de quoi je veux parler. Pour l'instant, il n'y a pas une ligne de texte qui est écrite, mais il y a beaucoup de choses dans la tête. Ouais.
Donc ça va se mettre en place. Tu comptes qu'il soit écrit et que tu peux commencer à le jouer quand?
Ah ben là, l'objectif, c'est revenir en 2026 à Avignon avec le spectacle.
L'année prochaine, direct.
Ouais, c'est l'objectif. Mais tu sais, alors ça pourrait faire un peu flipper, et d'ailleurs ça m'avait fait flipper la première année, parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé, et ça c'est un petit peu les coulisses du truc, c'est que donc j'ai fait Avignon ici en 2022 avec Mal Attentionné, le premier spectacle, et c'était ma deuxième année, et tout de suite, voilà, quand j'ai vu l'engouement que ça a pris et tout, puis moi je commençais à trouver ma place dans Avignon, j'ai dit à Stéphane, le patron du Carnot, j'ai dit écoute, l'année prochaine, tu me rebloques un créneau, je reviens avec ce spectacle, tout ça. Il m'a dit ok, super, pas de problème, je te bloque un créneau. Par contre, il me dit, Christophe, ça fait 2 ans que tu es avec moi dans ce même théâtre, avec le même spectacle. Tu reviens avec un nouveau spectacle. Et là, dans ma tête, je me suis dit, waouh, mais il est fou. Comment je peux écrire un spectacle en 1 an, le roder suffisamment pour arriver à Avignon? Parce qu'à Avignon, tu sais qu'il y a beaucoup de pros qui viennent.
Ouais, tu changes juste l'affiche et le titre.
Ouais, non, c'est pas suffisant quand même. Et du coup, ouais, je me suis dit, mais comment, voilà, 11 mois arriver, tu vois, il faut pas non plus manquer, parce que si tu arrives avec un spectacle qui est un peu approximatif, ça peut faire vraiment l'effet inverse au niveau des pros. Ils peuvent te catégoriser en disant, bah, le spectacle est pas bon, et puis voilà. Donc il faut
même
faire
le public.
Même le public, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais souvent, le public est quand même plus indulgent que le pro, tu vois, qui voit beaucoup de spectacles, c'est normal, hein, par définition. Et du coup, voilà, bah, écoute, je me suis mis à bosser dès le 1er août, en fait, tout simplement. Et j'ai écrit le spectacle. Il était fini fin décembre. Et puis, j'ai commencé à le roder. Je suis arrivé à Avignon en 2023 avec un nouveau spectacle. C'est possible. Il faut avoir une deadline, surtout, c'est important. Et surtout, il faut avoir, faut se mettre au boulot, quoi, et il ne faut pas lâcher. Donc voilà, bah écoute, je me dis que je l'ai fait une fois, il n'y a pas de raison, je le ferai une deuxième fois. Donc l'idée, le projet, c'est revenir en 2026 avec le nouveau spectacle.
Donc du coup, les auditeurs, vous savez que vous pouvez venir l'année prochaine et vous verrez encore quelque chose de nouveau.
Exactement, exactement.
Est-ce que tu vas avoir une suite par rapport au deuxième, ou est-ce que ça va être complètement différent?
Non, ça ne sera pas une suite, ça sera, on va changer de sujet. Je vais parler de totalement autre chose.
C'est ma femme, maintenant.
Non, mais ben, j'en parlais dans le premier. Donc non, je parlais de ma femme. Enfin, voilà, qui se fait... Donc non, là c'était les enfants, la famille. Non, ça sera totalement autre chose. Pour l'instant, je le garde encore confidentiel, parce que j'ai pas encore tout mis bout à bout dans ma tête. Mais voilà, ça prend forme petit à petit.
Il va détruire les patrons de théâtre.
Ah, c'est pas con, ça pourrait être une idée, ça. Tiens.
Ouais, mais bon, après,
ça va être difficile de le vendre quand même, hein, si je commence à...
Déjà, on va savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Déjà, tu as les réseaux sociaux, tout ça, où est-ce qu'on peut aller?
Eh ben sur Facebook, donc Christophe Basclos, voilà, et sur Instagram, Basclos Humoriste. Et j'ai dû le préciser parce qu'il y a un autre Basque sur Instagram. Lui, il est trapéziste en Ouzbékistan. C'est pour ça que je le précise. Ouais, non, mais c'est l'occasion de me retrouver voilà, sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est là que je marque toutes mes dates de tournée, où c'est qu'on peut me retrouver partout en France. Parce qu'après, je tourne en café-théâtre et en centre culturel, en festival, un peu partout en France.
Et quand tu viens chez nous, dans le Nord ?
Quand est-ce que je viens ? Ben, écoute, avec grand plaisir. J'attends, on doit se recaler avec les professionnels qui sont venus. Je dois aller à Saint-Riquier. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est par chez toi.
C'est 3 heures de route.
Ah oui, ouais, ça fait une trotte, ouais, d'accord, ok. Voilà, j'étais déjà venu au Spotlight à Lille, etc. Donc il faut la recaler avec tous les pros. Voilà, on n'a pas encore bloqué toutes les dates, mais j'espère venir chez vous parce que là-bas, le public, il est assez exceptionnel quand même. Assez exceptionnel.
Là, tu nous as fait tout ça. Moi, je voudrais savoir, tu nous as dit que tu, gamin, tu jouais au rugby.
Oui.
Tu es venu tard sur le théâtre.
Oui.
Mais ton gamin, là, il veut faire quoi, lui ? Il veut te suivre ou pas ?
Oh, pas du tout. Lui, il n'est pas du tout là-dedans.
Non, il gère, lui.
Oui, il gère. Non, mais c'est très différent. Lui, en fait, il est parti dans des études d'informatique, de codage informatique, donc rien à voir. Lui,
ah, mais il continue plutôt dans les jeux, quoi.
Ouais, mais non, même pas. Enfin, alors, les jeux pour le loisir, mais là, non. Oh, après, on remarque qu'il peut se retrouver à programmer des jeux vidéo, etc. C'est possible aussi. Ouais,
tu vois, comme quoi, tu râles quand il y a gamin, après ton gamin sur la PlayStation, alors qu'il prenait de l'avance sur ses études.
C'est ça, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Mais je l'ai dit dans le spectacle. Hein. J'ai dit. Hein. Non. Voilà, lui, il est plutôt là-dessus. Ma fille, par contre, est plus dans le côté artistique, puisque ma fille est danseuse, pardon. Et donc, elle, la fibre artistique, oui, ça, c'est son truc. Et voilà, la chorégraphie, créer des chorégraphies, etc. C'est vraiment son truc à elle, quoi.
Donc, tu vas la mettre en scène aussi ?
Oh, je crois qu'elle n'a pas besoin de moi, au contraire. Ouais. Elle a plein d'idées pour se mettre en scène toute seule.
Mais tu vas la produire ?
Ça, c'est possible, ça, par contre. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On va continuer en famille. Et puis, ouais. Non, mais ouais, elle se débrouille très bien tout seule là-dessus.
Dans l'Avignon de cette année et les autres Avignons, qu'est-ce que tu as trouvé comme différence par rapport...
Ben, j'ai trouvé, alors moi en comparaison, j'ai surtout 2023 qui a été vraiment une.
Ah ouais, là c'était un retour.
Ouais, pour moi ça a été vraiment le.
Je crois que c'était le meilleur des Avignons qu'on ait pu faire.
Ouais, en tout cas, moi c'est clair que ça a été mon meilleur parce que.
Là, je parle pas en financier.
Ben, moi je te parle à tous les niveaux, vraiment 2023, c'est celui où j'ai eu le plus de monde dans ma salle, c'est celui où j'ai eu le plus de professionnels dans ma salle qui m'a ouvert vraiment 2 ans de tournée, donc ça a été vraiment exceptionnel. Donc peut-être c'est une fausse référence aussi parce que si effectivement c'est l'année où ça a le mieux marché, mais cette année bizarre. Alors, je fais un très bon festival, je peux pas me plaindre vraiment, j'ai fait un très très bon festival, mais en dents de scie, tu vois, il y a eu des jours où il y a eu un très gros remplissage, voilà, liste d'attente, et puis le lendemain plus que 20 personnes. Je vois beaucoup de monde dans les rues, mais en même temps beaucoup plus dur de les faire venir dans la salle, beaucoup de gens qui ont réservé au préalable.
C'est beaucoup ça maintenant.
Et du coup, surtout quand on réservait des grosses productions, des gros spectacles qui se vendent beaucoup. Et nous, du coup, derrière, c'est difficile à caler notre spectacle dans la journée. Donc voilà, vraiment un peu ce sentiment-là de voir du monde, mais se dire, mais ça marche un peu moins bien. Donc je n'ai pas les réponses, je ne sais pas du tout.
Alors, de 2023, c'était le retour après Covid, donc c'est vrai que c'était un des meilleurs Avignons parce que le public, on sentait qu'il venait ici pour s'amuser.
Oui.
Donc c'était plus facile à flyer, vraiment...
Oui, c'est vrai, tu as raison. Ambiance, 2021, c'était vraiment... On sortait de Covid, c'était compliqué, il y avait les masques, il y avait les restrictions de jauge, donc c'était peut-être un peu plus difficile, mais moins de spectacles aussi, donc moins de concurrence. 2022, on commençait à retrouver de l'activité, mais les gens étaient encore un peu timorés. Ils étaient encore un peu... j'ai senti, voilà, il a fallu vraiment leur redonner confiance de venir dans les salles de spectacle. 2023, c'était derrière nous. C'est bon, c'était un peu plus libéré. Tu as raison. Ouais, c'était vraiment comme ça.
Par contre, cette année, moi, j'ai eu beaucoup de retours des gens qui disent mais les prix de beaucoup de théâtre, ça a augmenté, quoi. Il y en a qui ont mis leur place entre... 20 et 25 balles. Donc ils disent ben, on n'a plus les moyens. On vit à 4, deux enfants, deux adultes. Alors heureusement qu'il y a encore les théâtres qui sont encore en dessous. Mais
Mais le public est obligé de faire des choix, faire des arbitrages.
Ils font 3 spectacles dans la journée ou ils en font 8. Quoi.
Mais c'est ça, exactement.
Et je le comprends parce que tu viens avec des gamins, il faut manger, il faut boire.
Il faut te loger. Ça coûte horriblement cher.
Ils sont pas du
coin. Oui, bien sûr. Non, c'est certain. Moi, je peux comprendre les... Je suis père de famille, hein, donc je sais comment. Je suis pas fou. Hein, je sais comment ça se passe, hein, quand tu te déplaces
en famille.
Ah, t'es pas fou.
Je suis schizophrène, mais je suis pas fou.
C'est un gros budget, donc les gens ils font un arbitrage, et c'est normal. Hein, tu peux pas leur en vouloir. Hein.
and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, now, now, stand by me. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay.
Puis il y a un truc, je pense, qui ne nous a pas aidé aussi, et ça c'est mon petit coup de gueule là, l'organisation du festival cette année, tu as vu, je ne sais pas si tu avais fait attention à ça, ils ont fait une grosse coquille dans le catalogue, la catégorie humour n'apparaît pas.
Oui,
et a été,
pourquoi
ben, en fait, elle a été dissolue dans la catégorie expérimentale. En fait, si tu veux, expérimentale, enfin toutes les catégories de différents types de spectacles, et qui est en gras, en épaisseur, vraiment une police d'écriture plus grosse avec un entourage autour de la catégorie. Et la catégorie humour n'a pas ça. En fait, elle est notée comme si c'était un spectacle dans expérimental. Donc, tu ne nous trouves pas. Donc, tous ceux qui sont dans la catégorie humour, en fait, n'ont pas cette visibilité-là.
Alors qu'il y a une majorité d'humour ici. Hein.
Alors qu'il y a une majorité d'humour. Donc, du coup, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont été catégorisés en stand-up ou en seul en scène ou en comédie. Mais humour n'apparaît pas. Donc, je pense qu'il y a un gros manque à gagner. Donc, voilà. Donc, on est en train de monter une action avec les copains qui sont dans ce cadre-là pour demander réparation au niveau du festival parce que c'est quand même un gros manque à gagner. C'est indéniable. Donc, on verra la suite.
D'accord, d'accord. Quand est-ce que tu te mets à la chanson ?
La chanson ? Oh, je pense que c'est mieux pour tout le monde que je m'y mette pas.
Il a fait beau tout le long. On va éviter.
Ouais, voilà, ouais, ça serait dommage qu'on se prenne un orage là les derniers jours. Hein.
Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Écoute, non. J'ai passé un très bon moment avec toi. Je te remercie vraiment
de
ça. Puis pour les photos que tu as faites pendant le spectacle, elles sont magnifiques. Et puis merci pour ce moment accordé. C'était un agréable moment. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi de nous accorder du temps déjà.
Ben, avec grand plaisir.
Répondre à des questions un peu débiles des fois.
Non, jamais, jamais, jamais.
Jamais, non, non. Quelle est la taille de ton vélo ?
Ah ben j'ai pas de vélo, donc c'est
ben voilà, tu vois, la question était débile.
Je confirme, celle-là elle est débile, ouais, celle-là je confirme.
Même pas à Vélib ?
Non, mais moi tu sais, j'habite à Brignoles, hein. À Brignoles il n'y a pas de Vélib, hein. Non c'est sûr. Hein. Non, il n'y a même pas de train, il y a une gare mais il n'y a pas de train, ouais, c'est fou. Hein.
Oui, ben, c'est parce que la gare n'existe plus.
La gare existe toujours, mais les trains non. Il
n'y
a plus
pas
de trajet.
De gare,
ouais, c'est ça, le chef de gare il est parti, depuis qu'il est à la retraite c'est fini.
T'habiterais Bouzolles ?
Bouzol, hein,
t'aurais le TGV avec les tuches.
Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, même pas, tu vois.
On va rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver.
Ben, on peut me retrouver partout, partout en France. J'ai une tournée qui tourne partout. Là, je vais partir du côté de Toulouse, au Citron Bleu. Je vais aller où c'est que je vais. Je sais même plus. J'en ai un petit peu partout.
De toute façon, t'as tout sur
oui,
Facebook.
De toute façon, sur Facebook, je marque systématiquement toutes mes dates. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, voilà, ouais, Toulouse. Je vais à Craponne, du côté chez Jeannette et Loupine, du côté de Lyon. Je vais revenir à Avignon aussi, mais hors festival.
Au République Paradise ?
Non, pas du tout. Non, celui-là, non. Je crois qu'on ne reviendra plus. Malheureusement, c'est terrible d'ailleurs ce qui se passe pour les compagnies. Non,
mais c'est terrible pour tout le monde, même les techniciens.
Bien sûr.
Parce qu'on dit les compagnies, mais
il y a du
personnel derrière.
Il y a du monde derrière. Oh, ouais. C'est un peu dramatique. J'espère que tout va se régler pour eux. Non, je reviendrai au théâtre de l'Observance au mois d'octobre.
Ah, je suis ami Kélian.
Exactement, je vais aller du côté de Rouen de nouveau, je vais aller à Metz, je vais aller à Toulouse, je l'ai dit tout à l'heure, je vais aller à la ville du Temple, je vais...
Tu vas te promener, quoi.
Et oui, il y a de quoi se marrer, on va promener, on va encore utiliser le TGV.
Bah écoute, je te remercie.
C'est moi qui te remercie. Merci
beaucoup.
Donc,
Christophe Basclos, sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir toutes les informations. N'hésitez pas à aller voir. Sur YouTube, tu as encore des vidéos, donc on peut voir aussi.
Ouais, je mets quelques vidéos de temps en temps. J'essaye, alors même si c'est pas trop mon réflexe, mais j'essaie. Tout passe par les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, j'essaye de m'y tenir.
Et puis allez le voir parce que vous allez passer un bon moment, vous allez vous retrouver avec vos gamins.
Merci beaucoup.
Ouais. Emmenez les enfants, emmenez les grands et emmenez les parents parce que les grands-parents vont se retrouver aussi dans le truc.
Complètement, les grands. C'est vraiment multigénérationnel, tout le monde s'y retrouve. Ouais, carrément.
Et ben, je te remercie beaucoup.
C'est moi qui te remercie. Merci, à bientôt.
Merci aux auditeurs, à bientôt.
Ciao.
Bonjour, comment tu vas ?
Ça va.
Alors dis-moi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais à Avignon ?
Alors, je m'appelle Marlène Bouvier, je suis autrice, comédienne, chanteuse, humoriste, ex-dépressive, ex-instite, experte en loose en tout genre. Et je présente mon spectacle Rupture Partie où j'invite le public à fêter ma rupture en rire et en chanson. Parce qu'il faut aussi fêter ses looses.
Est-ce que c'est ton premier one ?
C'est mon premier one, oui.
C'est ton premier Avignon aussi ?
C'est mon premier Avignon, j'avais déjà fait l'an dernier, mais en one shot, donc c'était pas vraiment Avignon.
Voilà. Donc après ça, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, bah, allez hop, j'écris un one, tu faisais du théâtre, tu faisais quelque chose avant, tu faisais quoi ?
Oui, j'étais chanteuse, comédienne, ça fait longtemps que je chante et que je joue la comédie. J'ai chanté des compos dans des cafés, et en fait, entre les compos, qui étaient déjà à tendance bien humoristique, je faisais des vannes en fait, Et le concert avec mon guitariste devenait carrément du 50% vanne, 50% chanson. Donc j'ai aussi par ailleurs fait du théâtre avec des comédiennes qui ont bifurqué vers le one. Et donc j'ai naturellement tenté les plateaux d'humour parce que en fait c'était un parcours logique en fait, de chanteuse à comédienne, en écrivant des vannes et des chansons et des pièces humoristiques. Le one man était finalement l'aboutissement logique. La seule chose qui me faisait peur, c'était de me retrouver face au public, parce que moi j'avais besoin en tant que comédienne d'avoir des partenaires. Et je chantais notamment en maison de retraite, j'en parle dans mon spectacle, je suis la Beyoncé des EHPAD. Donc je noue une relation avec le public quand je chante en maison de retraite. Et je me suis rendu compte du coup qu'on n'est jamais seul, qu'on a vraiment une relation qui se crée avec le public. Et ça m'a permis de surmonter ma peur d'être seule sur scène. Et du coup je m'éclate avec le public dans mon One Woman Show, qui est aussi un One Musical Show où je mélange chanson et humour.
D'accord, donc on a les deux. Tu joues d'un instrument ?
Non, enfin je joue du piano, mais pas sur
mais
scène.
Mais pas là sur scène ici.
J'ai besoin de tout mon corps pour exprimer voilà, toutes mes looses et toutes les émotions qu'il y a besoin d'exprimer avec mon corps.
Alors tes musiques, c'est plutôt quoi ? Du jazz, du pop, c'est quoi ?
C'est de la variété pop, mais après ça dépend des chansons. Il y a une chanson qui a tendance un peu latino, une qui est vraiment pop-folk, on va dire. Une qui est pop-rock un petit peu, ça dépend de chaque chanson a son univers en fait. En fonction
parle dans la sucette par contre.
Chaque chanson a son univers en fonction de l'histoire qu'elle raconte, mais c'est de la pop en général, voilà, variété propre.
D'accord, donc on a un peu les mêmes univers, on va dire.
D'accord.
Alors, tu nous dis que ça parle de ta rupture. C'est une rupture qui s'est bien passée ou qui s'est mal passée ?
Ah ben bah ça, faut voir le spectacle, je ne vais pas tout spoiler dans le spectacle.
Ah mais pas tout spoiler, je vais savoir un peu.
Je parle des ruptures en général, j'évoque un peu les différents cas de figure, de se faire larguer, de partir, des sentiments qu'on ressent derrière. Et en fait, c'est un spectacle thérapeutique parce qu'en exprimant toutes les étapes, on évolue ensemble vers la réparation, la résilience, et la fin du spectacle parle beaucoup au public parce que justement, j'ai écrit ce spectacle quand j'étais en couple, pour la petite info. Et j'ai quitté mon ex juste avant le spectacle et j'ai réécrit toute la fin. Donc la fin correspond vraiment à ce que j'ai ressenti au moment de ma rupture. Donc c'est dans ce sens-là que c'est vraiment du vécu. C'est à la fois métaphorique et personnel et ça parle beaucoup au public. En fait, je dis que c'est pas parce qu'on est seul, c'est pas parce qu'on est célibe qu'on est à terre. On peut être heureux sans être amoureux. C'est un message très positif au final pour dire de ne pas miser tout sur l'amour et le couple, parce qu'en fait on peut aussi être heureux sans être en couple, c'est possible.
En fait tu viens dans la salle avec 100 psys qui eux payent pour t'écouter.
C'est ça, je fais ma psychothérapie mais je ne paye pas, c'est le public qui paye son entrée, exactement. C'est thérapeutique pour tout le monde en fait. Et j'ai des
tout
retours.
Le monde s'y retrouve.
Oui, et ce qui est incroyable c'est que les retours sont très bons, mais de personnes très différentes, de jeunes, de lycéennes, de étudiantes, de personnes plus âgées, des retraités qui évidemment ont connu plusieurs ruptures dans leur vie. Donc ça c'est formidable parce que c'est vrai que j'ai des références musicales très variées, hein, ça va de Lady Gaga à des compos et à Dalida, donc voilà, ça balaye un répertoire très large et ça parle à tout le monde, c'est ça qui est formidable avec ce spectacle et qui m'étonne.
Donc tu t'amuses bien ?
Bien sûr.
Alors, bah oui. Où est-ce que... je pense que tu t'amuses un peu moins, c'est dans la rue pour aller flyer. Parce qu'avec la chaleur, encore cette année, il ne fait pas trop chaud.
Il a fait chaud en début de festival.
En début, mais là, ça va, on a un peu de vent, là, on n'est pas trop mal.
En fait, ce qui est dur, c'est vocalement au niveau physique, pour tenir le rythme, parce que moi, surtout, je joue à 22h30 mon spectacle. Je ne peux pas y être à 9h, ça c'est clair, surtout que j'ai du trajet, je ne suis pas sur place, je habite vraiment dans le sud, donc je ne suis pas sur Avignon même, j'ai le trajet pour rentrer chez moi. Donc ça fait 2 heures par jour à peu près de trajet, mais quand je suis avec les gens, en fait j'ai tellement mon spectacle en tête et ce que j'ai envie de passer que ça passe très bien. Je raconte, voilà, j'ai des phrases d'accroche qui fonctionnent très bien. Je dis aux personnes que ça donne pas envie de rompre, ça donne envie d'être amoureux, encore plus amoureux, et ça passe des messages girl power à ces messieurs tout en flattant leur ego. Voilà, c'est très efficace. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il y a un moment de rencontre, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie grâce à mon spectacle. J'ai quand même 3 mariages grâce à ce spectacle.
Ah oui ?
Mieux que Tinder et certaines émissions de télé. Et puis je raconte ma vie de Beyoncé des EHPAD parce que je suis le Beyoncé des EHPAD. Tu connais Beyoncé ? Moi je chante, je danse et je fais l'humour bien plus que Beyoncé qui en vrai n'a aucun humour. Voilà. Et j'ai révélé un petit secret sur Hollywood parce que, you know, avec mon physique. Logically, j'ai des ex connus, donc je te révèle tout petit secret. Je chante Lady Gaga, mais je te révèle aussi le secret de Lady Gaga, etc. Et j'ai eu un prix du public au Festival du Monde de Pierrelet.
D'accord.
Ça va bien aussi. 10 sur 10 sur Béréduc, j'ai une très bonne critique. Et puis j'avais joué ce spectacle au théâtre de 10h, juste pour rire. Le directeur avait eu, quand j'avais rodé ce spectacle avant la crise sanitaire. Et il avait eu un coup de cœur pour mon spectacle, donc il m'avait permis d'organiser un showcase au théâtre de 10 heures pour faire venir des producteurs. Il y en avait plusieurs qui s'intéressaient. Et puis, c'était 2 mois avant le premier confinement, donc après.
Ouais, après on connaît la suite.
J'ai dû déménager, j'ai dû quitter Paris, ça a été un bouleversement comme pour beaucoup d'artistes. Et donc je reprends ce spectacle parce que j'étais vraiment aux prémices et qu'il y avait une super énergie autour et des très bonnes choses qui étaient sur le point de se passer. Et là, j'ai commencé à avoir un début de tournée en 2026 qui se profile. Ça commence à prendre forme.
Donc ce spectacle existe depuis 2019, mais a été coupé avec le Covid, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, je l'ai remanié parce que j'ai eu des nouvelles ruptures entre-temps. et 2026, voilà, je vais avoir des dates, je vais pouvoir jouer un peu dans toute la France.
Alors, est-ce que c'est le Covid qui a dû faire une rupture ou venir voir le spectacle.
je ne peux pas te révéler, il faut payer ta place, one moment. effectivement, quand on dit qu'on est une loseuse et qu'on vit le Covid, bon, ça confirme bien qu'on a une vie compliquée et c'est de nouvelles galères dont on va faire un nouveau spectacle. Ça, je pense que je vais vraiment faire un nouveau spectacle. Des 3-4 ans que j'ai passé dans une nouvelle région, ça a été assez fou ce qui m'est arrivé. Et donc, c'était pas drôle à vivre, mais à écrire et à mettre en scène, ça sera sympa, ouais.
Toi qui mets en scène aussi ?
Oui, après je l'avais rodé, je l'avais montré à beaucoup de personnes, notamment j'avais montré aussi à Papy qui s'appelle en vrai Alain Degois, qui est le comment on appelle ça, celui qui a lancé Jamel Debbouze, qui est à l'initiative de beaucoup de carrières dans l'humour. Donc j'avais eu la chance de le rencontrer, de lui montrer une captation de ma rupture partie. Il m'avait donné quelques conseils très simples en me disant qu'en fait il fallait juste que la comédienne fasse confiance à l'autrice, donc que je me pose et que je prenne le temps de vivre le spectacle. Donc j'ai eu quelques retours comme ça. Je suis toujours ouverte à des propositions de mise en scène, mais le ressenti, c'est la comédienne qui joue, qui vit les scènes dramatiques et qui en fait rire le public avec son énergie de folle, parce que je suis un peu là je suis très calme, mais en vrai sur scène je suis une faux folle,
mais il faut.
Je suis une pile électrique et you've got to come to see it, regarder le teaser et les chansons. Et j'ai réalisé aussi un clip, le souvenir de tes gestes aussi, qui donne un petit peu une idée de l'ambiance. J'ai réalisé toute seule chez moi,
donc ça sur YouTube on peut trouver,
voilà, sur ma chaîne Marlène Bouvier, il y a plein de vidéos à découvrir qui donne une idée du personnage.
Et là, si on veut sur des réseaux, on peut aller où ?
Instagram, Marlène Bouvier. Facebook, c'est Marlène sur scène. Et TikTok aussi, j'ai un compte Marlène Bouvier. Et Tinder, grosse chaudasse. Non, je ne suis pas sur Tinder.
Je suis sur un autre, mais pas Tinder. Alors, pourquoi tu n'as pas Marlène Bouvier sur Facebook ?
J'ai fait Marlène sur scène.
Oui, mais pourquoi ?
J'ai Marlène Bouvier, j'ai mon Marlène Bouvier perso, on m'ajoute comme un lui, mais pour l'artiste Marlène sur scène, okay. Parce que ça regroupe...
Parce que moi je me mets à la place de l'auditeur qui va taper Marlène Bouvier.
Mais il va le retrouver de toute façon, j'ai un site marlènebouvier.com tout simplement,
d'accord.
Où il y a tout regroupé, et il y a même aussi, parce que j'ai d'autres activités, ce qui m'ont permis de rester intermittente pendant cette période... de crise sanitaire, c'est les spectacles pour enfants. Donc il y a toutes, voilà, toutes mes activités de chanteuse, humoriste, comédienne, spectacle pour enfants. J'en ai deux qui tournent, qui fonctionnent bien. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site.
Et toi, tu es basée à Paris?
Non, je suis dans le sud de la France.
Ah, dans le sud, pardon. Ah oui, tu étais à Paris pour t'as quitté pour revenir.
Eh bien, j'ai je ne pouvais plus payer mon loyer au moment du Covid, donc j'ai dû quitter Paris.
Donc, si on veut te trouver, il n'y a pas de souci, on va sur le site, on t'envoie. Et puis, si on
tout
veut
à fait,
voir,
contact à marlenebouvier.com.
Voilà. Dans les écoles, dans les théâtres, partout.
Partout, oui, oui, dans toute la France, puisque là, j'ai une tournée qui va se commencer en 2026 dans toute la France.
Magnifique, ça.
Oui, avec Mieux vaut tard que jamais, c'est le titre de mon roman, et c'est le titre de ma vie aussi, Mieux vaut tard que jamais.
Parce que tu as fait un roman.
Oui, j'ai fait un roman.
Et bien, on va en parler. Ah bah oui, allez, vas-y. Explique tout, c'est quoi ton roman? Si, si, vas-y, vas-y.
Alors, j'ai fait un sketch très drôle, je vous invite à le voir sur ma chaîne YouTube. Une interview, je me suis auto-interviewée. Enfin non, c'est pas moi, c'est un personnage, mais il faut aller voir l'interview sur ma chaîne YouTube. C'est La Grande Bibliothèque, et le sketch est hilarant. Où je pitch mon, voilà, mon roman. Là, je ne l'ai plus en tête, donc je préfère pas le pitcher et pas faire un mauvais pitch. Plutôt que j'invite les gens, enfin le public, à aller découvrir ce sketch-là. Moi, je redécouvre des vidéos que j'ai faites, je me dis, mais franchement.
Ah, j'ai fait ça
mais je te jure, mais c'est incroyable. Mais parce que je fais du montage, tout ça, et que là, les 3-4 dernières années ont tellement été un bouleversement que je n'avais plus le temps de faire autant de vidéos, etc. Mais ouais, il y a des super trucs sur ma chaîne YouTube à redécouvrir. Donc je vous invite à aller voir La Grande Bibliothèque. De toute façon, le roman n'est plus en ligne, donc si vous voulez, envoyez-moi des messages.
Alors réécrire.
Non, je vais le rééditer parce que c'est en auto-édition, mais après, quand tu le dédites en format physique, tu dois avancer l'argent. Donc il faut être sûr que les gens achètent derrière, parce que les gens qui aimaient lire pendant la période du Covid, moi je les attends toujours. Il y en a plein qui mettaient des photos de couverture. Mon bouquin en tout cas ne les a pas forcément intéressés, alors qu'il est très drôle et que c'est l'histoire, pour te pitcher, c'est l'histoire de Sylvie qui rêve de devenir, qui est étudiante, qui rêve de devenir chanteuse, qui erre de karaoké en karaoké en vain parce qu'elle a un physique pas très avenant, elle est ronde, voilà, c'était un peu moi quand j'étais étudiante, j'avais un physique qui ne plaisait pas spécialement. Et le point commun s'arrête là, parce qu'un jour, un matin, elle se réveille, tout le monde la reconnaît et c'est devenu une star de la chanson du jour au lendemain. Que faire? Est-ce qu'elle profite de sa nouvelle gloire ou est-ce qu'elle cherche à comprendre ce qui s'est passé? Voilà, c'est un roman humoristique à suspense. C'est ce que j'aime écrire moi après dans les formats longs, parce que j'ai écrit aussi des scénarios, etc. Et donc c'est drôle et ça... Et c'est original parce que ça interroge sur le star system, sur le showbiz, tout ça. Donc c'est vraiment un roman à découvrir, mais il n'est plus en vente. J'en ferai peut-être un scénario de film. Enfin, je ne sais pas. Voilà, j'en ferai certainement.
Au début, lorsqu'il n'y a rien qu'un rêve qui scintille doucement et que ta peur semble se cacher tout au fond de ton esprit, j'ai pleuré.
Profiter pendant qu'elle n'est pas trop connue, parce qu'après, ça va exploser, ça va être la folie.
Ah bah c'est possible, avec l'IA, on va peut-être pouvoir réaliser nos films nous-mêmes sans production. Donc moi, je me dis, tous les scénarios qu'ils ont dans mes tiroirs, je vais peut-être enfin pouvoir en faire quelque chose. Et finalement, bon, alors évidemment, l'IA, c'est une catastrophe pour nos métiers.
C'est dangereux, mais... c'est pour ça que je suis étonné que tu en parles.
Oui, mais d'un côté, moi, ça fait des années que je cherche des productions, je vois des... Je ne vais pas être désagréable. Des choses pas très bonnes qui sortent au cinéma. Et moi, je sais voilà, qualitativement ce que j'ai fait. J'ai eu des compliments de réalisateurs comme Patrice Lecomte, qui a lu mon scénario et qui me disait que ça pouvait donner un chef-d'œuvre. Et je t'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des films qui sortent qui sont vraiment pas terribles et des réalisateurs qui ont des bâtons dans les roues alors qu'ils ont des super films à monter. Donc moi je vais pas attendre 50 ans. Je vais, s'il y a les moyens de les faire techniquement, peut-être pas un long métrage, mais pourquoi pas. J'ai réalisé un documentaire sur ce qui m'est arrivé pendant les 3 ans aussi, sur les pas de Maria Jagielka, que je vous invite à découvrir sur ma chaîne YouTube. Voilà, je sais que maintenant avec les moyens technologiques, on peut faire beaucoup avec peu de moyens. C'est une chance pour les petits comme moi qui n'avons pas de subventions publiques ni rien. Donc si le CNC ne finance pas mes films, je vais peut-être me débrouiller par les faire moi-même toute seule. Donc voilà.
Comme beaucoup.
Une petite équipe, oui.
Comme beaucoup.
Oui, parce que je sais que j'ai posté un mobile film que j'avais fait avant le Covid, pareil, et il a fait 10 000 vues sur Instagram. Il y a eu vraiment une bonne exposition. Donc pourquoi pas, après peut-être 10 000 vues si les gens viennent régulièrement et apprécient mon contenu, peut-être qu'on pourra avoir un abonnement et vivre de ces contenus de cette façon-là. Je ne sais pas, hein. De toute façon, il faut chercher. Tu sais, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on essaie de trouver des nouveaux moyens de vivre de nos métiers. Donc cherchons et après luttons pour aussi soutenir les artisans. Les artistes qui sont des vrais artisans, comme moi, qui écrivons et qui avons peu de moyens, mais qui faisons les choses avec cœur et que le public, quand on a la chance de pouvoir rencontrer le public, reconnaît. Donc ça, c'est chouette. Et c'est ça la chance du Festival d'Avignon. C'est pour ça que je suis très heureuse de le faire. C'est parce qu'on a vraiment la possibilité de discuter avec le public sans intermédiaire. Ça, c'est vraiment...
Ah bah là, tu l'as dans la rue et dans la salle. Hein.
Exactement. Et ça se passe très, très bien. C'est génial.
Et quelle idée de faire le festival, justement ?
Ah bah c'est justement ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu sais que tes spectacles ont un super écho, que les programmateurs sont difficiles à atteindre, donc tu cherches à rencontrer le public. Donc c'est ça, Avignon. Pour les petits comme moi, c'est formidable. Donc on s'éclate et puis on a des salles de plus en plus remplies, donc ça c'est génial. Et des super retours d'un public de plus en plus large. C'est vrai qu'à Paris, j'avais plutôt un public CSP+, et là je découvre que les jeunes accrochent aussi à mon spectacle. Ça c'est super pour moi. Ça me donne la niaque, encore plus.
On rappelle que tu es à l'Observance chez notre ami Kylian.
Voilà, à
22h30.
Ouais. Alors là, jusqu'au 15 juillet.
Là, malheureusement, tu seras diffusé en septembre. On est au mois de juillet, mais on peut le rappeler parce que ça nous fait un petit coucou à notre copain Kylian en même temps.
Oui, on remercie Kylian de sa confiance, effectivement.
Ta surprise ici, qu'est-ce qui t'a le plus étonné au premier festival ? Tu t'attendais à tout ça ?
Non, mais moi, quand j'ai fait le tout premier festival, je sortais de confinement. Donc moi, c'était de retrouver mes potes et de retrouver des gens, tout simplement. Moi, j'étais dans un état d'isolement total, donc c'était une joie pour moi de discuter avec les gens dans la rue. C'était le retour à la vie, en fait. Et après le premier Avignon, j'avais fait un one shot, hein, donc c'était pas un vrai festival, j'étais pas programmée ni dans le catalogue. Je me suis rendu compte à quel point c'était difficile dans la région où j'avais emménagé. Parce que j'étais très très isolée et j'ai décidé de revenir dans le sud près de ma famille. Donc ça a été un déclic à ce niveau-là de me dire je me rapproche de ma famille, je reviens dans le sud. C'est ma maison.
D'accord.
Tout simplement.
Retour aux sources.
Exactement, tout à fait.
Eh bien écoute, je vais te laisser tranquille parce qu'il faut aller flyer pour un peu.
C'est ça, exactement. C'est sportif, c'est du plaisir, mais c'est quand même très physique. C'est un peu Koh-Lanta tous les jours avec la joie de jouer sur scène.
À part que tu n'es pas sur les poteaux, mais tu marches.
Exactement. Non, je ne suis pas sur les poteaux, mais j'ai les jambes comme des poteaux à la fin de la journée avec la chaleur.
On va rappeler où on peut te retrouver, une adresse mail.
Alors, www.marlenebouvier.com, mon site internet où vous avez toutes les références, les réseaux. Sur Instagram, Marlène Bouvier. Sur TikTok, Marlène Bouvier. Sur Facebook, Marlène sur scène. Sur le site Marlène Bouvier, vous retrouvez tout.
Okay. Voilà. On va On va rappeler le titre du spectacle.
Rupture partie. Venez faire la fête avec moi, fêter ma rupture parce qu'il faut fêter nos loses. Et plus si affinité, parce que si vous êtes célibe, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie grâce à mon spectacle.
Et sur la scène peut-être.
Oui, grâce à mon spectacle sur scène, exactement. Et sur YouTube, marlenebouvier.com, évidemment, la chaîne.
Je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
Je vais te souhaiter un gros merde pour la suite.
Merci, toi. Bon festival à toi aussi.
Et je prends. Merci beaucoup.
Et à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci.